Paul Valéry. Regard sur le monde actuel. Avant-propos. Ce petit recueil se dédie de préférence aux personnes qui n'ont point de système et sont absentes des partis, qui par là sont libres encore de douter de ce qui est douteux et de ne point rejeter ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, ce ne sont ici que des études de circonstances. Il en est de 1895, il en est d'hier, il en est d'aujourd'hui. Elles ont ce caractère commun d'être des essais au sens le plus véritable de ce terme. On n'y trouvera que le dessein de préciser quelques idées qu'il faudrait bien nommer politiques, si ce beau mot de politique, très séduisant et excitant pour l'esprit, n'éveillait de grands scrupules et de grandes répugnances dans l'esprit de l'auteur. Il n'a voulu que se rendre un peu plus nettes les notions qu'il avait reçues de tout le monde, ou qu'il s'était formé comme tout le monde, et qui servent à tout le monde à penser aux groupes humains, à leurs relations réciproques et à leurs gènes mutuels. Essayer de préciser en ces matières n'est assurément pas le fait des hommes qui s'y entendent ou qui s'en mêlent. Il s'agit donc d'un amateur. Je ne sais pourquoi les entreprises du Japon contre la Chine et des États-Unis contre l'Espagne qui se suivirent assez près me firent dans leur temps, 1895 et 1898, une impression particulière. Ce ne furent que des conflits très restreints, où ne s'engagèrent que des forces de médiocre importance, et je n'avais, quant à moi, nul motif de m'intéresser à ces choses lointaines, auxquelles rien de mes occupations, ni dans mes soucis ordinaires, ne me disposait à être sensible. Je ressentis toutefois ces événements distincts, non comme des accidents ou des phénomènes limités, mais comme des symptômes ou des prémices, comme des faits significatifs, dont la signification passait de beaucoup l'importance intrinsèque et la portée apparente. L'un était le premier acte de puissance d'une nation asiatique, réformée et équipée à l'européenne. L'autre, le premier acte de puissance d'une nation déduite et comme développée de l'Europe, contre une nation européenne. Un choc qui nous atteint dans une direction imprévue nous donne brusquement une sensation nouvelle de l'existence de notre corps en tant qu'inconnu. Nous ne savions pas tout ce que nous étions, et il arrive que cette sensation brutale nous rende elle-même sensible, par un effet secondaire, à une grandeur et à une figure inattendue de notre domaine vivant. Ce coup indirect dans l'Extrême-Orient et ce coup direct dans les Antilles me firent donc percevoir confusément l'existence de quelque chose qui pouvait être atteinte et inquiétée par de tels événements. Je me trouvais sensibilisé à des conjonctures qui affectaient une sorte d'idée virtuelle de l'Europe que j'ignorais jusqu'alors porter en moi. Je n'avais jamais songé qu'il existât véritablement une Europe. Ce nom ne m'était qu'une expression géographique. Nous ne pensons que par hasard aux circonstances permanentes de notre vie. Nous ne les percevons qu'au moment qu'elles s'altèrent tout à coup. J'aurai l'occasion de montrer tout à l'heure à quel point notre inconscience, à l'égard des conditions les plus simples et les plus constantes de notre existence, et de nos jugements, rend notre conception de l'histoire si grossière, notre politique si vaine, et parfois si naïve dans ses calculs. Elle conduit les plus grands hommes à concevoir des desseins qu'ils évaluent par imitation et par rapport à des conventions dont ils ne voient pas l'insuffisance. J'avais, en ce temps-là, le loisir de m'engager dans les lacunes de mon esprit. Je me pris à essayer de développer mon sentiment ou mon idée infuse de l'Europe. Je rappelai à moi le peu que je savais, je me fis des questions, je rouvris, j'entrouvris des livres. Je croyais qu'il fallait étudier l'histoire et même l'approfondir pour se faire une idée juste du jour même. Je savais que toutes les têtes occupées du lendemain des peuples en étaient nourries. Mais quant à moi, je n'y trouvais qu'un horrible mélange. Sous le nom d'Histoire de l'Europe, je ne voyais qu'une collection de chroniques parallèles qui s'entremêlaient par endroits. Aucune méthode ne semblait avoir précédé le choix des faits, décidé de leur importance, déterminé nettement l'objet poursuivi. Je remarquais un nombre incroyable d'hypothèses implicites et d'entités mal définies. L'histoire ayant pour matière la quantité des événements ou des états qui, dans le passé, ont pu tomber sous le sens de quelques témoins, la sélection, la classification, l'expression des faits qui nous sont conservés ne nous sont pas imposés par la nature des choses. Elles devraient résulter d'une analyse et de décisions explicites. Elles sont pratiquement toujours abandonnées à des habitudes et à des manières traditionnelles de penser ou de parler dont nous ne soupçonnons pas le caractère accidentel ou arbitraire. Cependant, nous savons que dans toutes les branches de la connaissance, un progrès décisif se déclare au moment que des notions spéciales, tirées de la considération précise des objets mêmes du savoir et faites exactement pour relier directement l'observation à l'opération de la pensée et celle-ci à nos pouvoirs d'action, se substituent au langage ordinaire, moyen de première approximation que nous fournissent l'éducation et l'usage. Ce moment capital des définitions et des conventions nettes et spéciales qui viennent remplacer les significations d'origine confuse et statistique n'est pas arrivé pour l'histoire. En somme, ces livres où je cherchais ce qu'il me fallait pour apprécier les faits singuliers que me produisaient quelques nouvelles ne m'offraient qu'un désordre d'images, de symboles et de thèses dont je pouvais déduire ce que je voulais, mais non ce qu'il me fallait. Me résumant mes impressions, je me disais qu'une partie des œuvres historiques s'applique et se réduit à nous colorer quelques scènes, étant convenu que ces images doivent se placer dans le passé. Cette convention a de tout temps engendré de très beaux livres, et parmi ces livres, il n'y a pas lieu de distinguer, puisqu'il ne s'agit que du plaisir ou de l'excitation qu'ils procurent, entre ceux de témoins véritables et ceux de témoins imaginaires. Ces ouvrages sont parfois d'une vérité irrésistible. Ils sont pareils à ces portraits dont les modèles sont poussières depuis des siècles et qui nous font toutefois crier à la ressemblance. Rien dans leurs effets instantanés sur le lecteur ne permet de distinguer, sous le rapport de l'authenticité, entre les peintures de Tacite, de Michelet, de Shakespeare, de Saint-Simon ou de Balzac. On peut à volonté les considérer tous comme inventeurs ou bien tous comme reporteurs. Les prestiges de l'art d'écrire nous transportent fictivement dans les époques qui leur plaisent. C'est pourquoi, entre le pur conte et le livre d'histoire pure, tous les tirages, tous les degrés existent, romans historiques, biographies romanesques, etc. On sait d'ailleurs que dans l'histoire même, parfois, paraît le surnaturel. La personnalité du lecteur est alors directement mise en cause, car c'est lui dont le sentiment admettra ou rejettera certains faits, décidera ce qui est histoire et ce qui ne l'est point. Une autre catégorie d'historiens construisent des traités si bien raisonnés, si sagaces, si riches en jugements profonds sur l'homme et sur l'évolution des affaires, que nous ne pouvons penser que les choses se soient engagées et développées différemment. De tels travaux sont des merveilles de l'esprit. Il en est que rien ne passe dans la littérature et dans la philosophie. Mais il faut prendre garde que les affections et les couleurs dont les premiers nous séduisent et nous amusent, la causalité admirable dont les seconds nous persuadent, dépendent essentiellement des talents de l'écrivain et de la résistance critique du lecteur. Il n'y aurait qu'à jouir de ces beaux fruits de l'art historique et nulle objection ne s'élèverait contre leur usage si la politique n'en était tout influencée. Le passé, plus ou moins fantastique, ou plus ou moins organisé après coup, agit sur le futur avec une puissance comparable à celle du présent même. Les sentiments et les ambitions s'excitent de souvenirs de lecture, de souvenirs de souvenirs, bien plus qu'ils ne résultent de perceptions et de données actuelles. Le caractère réel de l'histoire est de prendre part à l'histoire même. L'idée du passé ne prend un sens et ne constitue une valeur que pour l'homme qui se trouve en soi-même une passion de l'avenir. L'avenir, par définition, n'a point d'image. L'histoire lui donne les moyens d'être pensée. Elle forme pour l'imagination une table de situations et de catastrophes, une galerie d'ancêtres, un formulaire d'actes, d'expressions, d'attitudes, de décisions offerts à notre instabilité et à notre incertitude pour nous aider à devenir. Quand un homme ou une assemblée, saisie de circonstances pressantes ou embarrassantes, se trouve contraint d'agir, leur délibération considère bien moins l'état même des choses en tant qu'il ne s'est jamais présenté jusque-là qu'elle ne consulte ses souvenirs imaginaires. Obéissant à une sorte de loi de moindre action, répugnante à créer, à répondre par l'invention à l'originalité de la situation, la pensée hésitante tend à se rapprocher de l'automatisme. Elle sollicite les précédents et se livre à l'esprit historique qui l'induit à se souvenir d'abord, même quand il s'agit de disposer pour un cas tout à fait nouveau. L'histoire alimente l'histoire. Il est probable que Louis XVI n'eût pas péri sur l'échafaud sans l'exemple de Charles Ier, et que Bonaparte, s'il n'eût médité le changement de la République romaine en un empire fondé sur le pouvoir militaire, ne se fût point fait empereur. Il était un amateur passionné de lectures historiques. Il a rêvé toute sa vie d'Hannibal, de César, d'Alexandre et de Frédéric. Et cet homme fait pour créer, qui s'est trouvé en possession de reconstruire une Europe politique, que l'état des esprits après 3 siècles de découvertes et au sortir du bouleversement révolutionnaire pouvait permettre d'organiser, s'est perdu dans les perspectives du passé et dans des mirages de grandeur morte. Il a décliné dès qu'il a cessé de dérouter. Il s'est ruiné pour s'être rendu semblable à ses adversaires, pour avoir adoré leurs idoles, imité de toute sa force ce qui faisait leur faiblesse, et substituer à sa vision propre et directe des choses l'illusion du décor de la politique historique. Bismarck, au congrès de Berlin, dominé par cet esprit historique qu'il prend pour esprit réaliste, ne veut considérer que l'Europe, se désintéresse de l'Afrique, n'use de son génie et de son prestige qui le faisait maître de l'instant, que pour engager les puissances dans des intérêts coloniaux qui les opposassent et les maintinssent rivales, jalousement divisées, sans prévoir que l'heure était toute proche où l'Allemagne devrait convoiter ardemment ce qu'elle avait excité les autres nations à se partager et les assemblerait par là contre elle-même, trop tard venue. Il a bien pensé au lendemain, mais point à un lendemain qui ne se fût jamais présenté. À cette exagération du rôle des souvenirs d'autrui, plus ou moins exacts, plus ou moins significatifs, correspond et s'accorde une absence ou une insuffisance de méthode dans le choix, la classification, la détermination des valeurs des choses enregistrées. En particulier, l'histoire semble ne tenir aucun compte de l'échelle des phénomènes qu'elle représente. Elle omet de signaler les relations qui doivent nécessairement exister entre la figure et la grandeur des événements ou des situations qu'elle rapporte. Le nombre et les grandeurs sont toutefois des éléments essentiels de description. Elle ne s'inquiète pas des problèmes de similitude. C'est là une des causes qui font si fallacieux l'usage politique de l'histoire. Ce qui était possible dans l'étendue d'une cité antique ne l'est plus dans les dimensions d'une grande nation. Ce qui était vrai dans l'Europe de 1870 ne l'est plus quand les intérêts et les liaisons s'élargissent à toute la Terre. Les notions mêmes dont nous nous servons pour penser aux objets politiques et pour en discourir, et qui sont demeurées invariables malgré le changement prodigieux de l'ordre de grandeur et du nombre des relations, sont insensiblement devenues trompeuses ou incommodes. Le mot « peuple », par exemple, avait un sens précis quand on pouvait rassembler tous les citoyens d'une cité autour d'un tertre dans un champ de Mars. Mais l'accroissement du nombre, le passage de l'ordre des mille à celui des millions, a fait de ce mot un terme monstrueux, dont le sens dépend de la phrase où il entre. Il désigne tantôt la totalité indistincte et jamais présente nulle part, tantôt le plus grand nombre, opposé au nombre restreint des individus plus fortunés ou plus cultivés. Les mêmes observations s'appliquent aux durées. Rien de plus aisé que de relever dans les livres d'histoire l'absence de phénomènes considérables que la lenteur de leur production rendit imperceptibles. Ils échappent à l'historien, car aucun document ne les mentionne expressément. Ils ne pourraient être perçus et relevés que par un système préétabli de questions et de définitions préalables qui n'a jamais été conçu jusqu'ici. Un événement qui se dessine en un siècle ne figure dans aucun diplôme, dans aucun recueil de mémoire. Tel le rôle immense et singulier de la ville de Paris dans la vie de la France à partir de la Révolution. Tel la découverte de l'électricité et la conquête de la Terre par ses applications. Ces événements sans pareil dans l'histoire humaine n'y paraissent, quand ils y paraissent, que moins accusés que telle affaire plus scénique et surtout plus conforme à ce que l'histoire traditionnelle a coutume de rapporter. L'électricité, du temps de Napoléon, avait à peu près l'importance que l'on pouvait donner au christianisme du temps de Tibère. Il devient peu à peu évident que cette innervation générale du monde est plus grosse de conséquences, plus capable de modifier la vie prochaine que tous les événements politiques survenus depuis Ampère jusqu'à nous. On voit, par ces remarques, à quel point notre pensée historique est dominée par des traditions et des conventions inconscientes, combien peu elle a été influencée par le travail général de révision et de réorganisation qui s'est produit dans tous les domaines du savoir dans les temps modernes. Sans doute la critique historique a-t-elle fait de grands progrès, mais son rôle se borne en général à discuter des faits et à établir leur probabilité. Elle ne s'inquiète pas de leur qualité. Elle les reçoit et les exprime à son tour en termes traditionnels, qui impliquent eux-mêmes toute une formation historique de concepts, par quoi s'introduit dans l'histoire le désordre initial qui résulte d'une infinité de points de vue ou d'observateurs. Tout chapitre d'histoire contient un nombre quelconque de données subjectives et de constantes arbitraires. Il en résulte que le problème de l'historien demeure indéterminé dès qu'il ne se borne plus à établir ou à contester l'existence d'un fait qui eût pu tomber sous le sens de quelques témoins. La notion d'événement, qui est fondamentale, ne semble pas avoir été reprise et repensée comme il conviendrait. Et c'est ce qui explique que des relations de première importance n'ont jamais été signalées ou n'ont pas été mises en valeur, comme je le montrerai tout à l'heure. Tandis que dans les sciences de la nature, les recherches multipliées depuis 3 siècles nous ont refait une manière de voir, et substituées à la vision et à la classification naïve de leurs objets, des systèmes de notions spécialement élaborés, nous en sommes demeurés dans l'ordre historico-politique à l'état de considération passive et d'observation désordonnée. Le même individu qui peut penser physique ou biologie avec des instruments de pensée comparables à des instruments de précision, pense politique au moyen de termes impurs, de notions variables, de métaphores illusoires. L'image du monde, telle qu'elle se forme et agit dans les têtes politiques des divers genres et des différents degrés, est fort loin d'être une représentation satisfaisante et méthodique du moment. Désespérant de l'histoire, je me mis à songer à l'étrange condition où nous sommes presque tous, simples particuliers de bonne foi et de bonne volonté, qui nous trouvons engagés dès la naissance dans un drame politico-historique inextricable. Nul d'entre nous ne peut intégrer, reconstituer, la nécessité de l'univers politique où il se trouve, au moyen de ce qu'il peut observer dans sa sphère d'expérience. Les plus instruits, les mieux placés, peuvent même se dire, en évoquant ce qu'ils savent, en le comparant à ce qu'ils voient, que ce savoir ne fait qu'obscurcir le problème politique immédiat, qui consiste, après tout, dans la détermination des rapports d'un homme avec la masse des hommes qu'il ne connaît pas. Quelqu'un de sincère avec soi-même et qui répugne à spéculer sur des objets qui ne se raccordent pas rationnellement à sa propre expérience. À peine ouvre-t-il son journal, le voici qui pénètre dans un monde métaphysique désordonné. Ce qu'il lit, ce qu'il entend, excède étrangement ce qu'il constate ou pourrait constater. S'il se résume son impression, point de politique sans mythe, pense-t-il. Ayant donc fermé tous ses livres écrits en un langage dont les conventions étaient visiblement incertaines pour ceux-là même qui l'employaient, j'ouvris un atlas et feuilletai distraitement cet album des figures du monde. Je regardai et je songeai. J'ai songé tout d'abord au degré de précision des cartes que j'avais sous les yeux. Je trouvai là un exemple simple de ce qu'on nommait le progrès, il y a 60 ans. Un portulant de jadis, une carte du XVIe siècle, une moderne, marque nettement des étapes, me dis-je. L'œil de l'enfant s'ouvre d'abord dans un chaos de lumières et d'ombres, tourne et s'oriente à chaque instant dans un groupe d'inégalités lumineuses. Et il n'y a rien de commun encore entre ces régions de lueur et les autres sensations de son corps. Mais les petits mouvements de ce corps lui impose d'autre part un tout autre désordre d'impression. Il touche, il tire, il presse. En son être, peu à peu, se dégrossit le sentiment total de sa propre forme. Par moments distincts et progressifs, s'organise cette connaissance. L'édifice de relations et de prévisions se dégage des contrastes et des séquences. L'œil et le tact et les actes se coordonnent en une table à plusieurs entrées qui est le monde sensible. Et il arrive enfin, événement capital, qu'un certain système de correspondance soit nécessaire et suffisant pour ajuster uniformément toutes les sensations colorées à toutes les sensations de la peau et des muscles. Cependant, les forces de l'enfant s'accroissent et le réel se construit comme une figure d'équilibre en laquelle la diversité des impressions et les conséquences des mouvements se composent. L'espèce humaine s'est comportée comme cet être vivant le fait quand il s'anime et se développe dans un milieu dont il explore peu à peu et assemble par tâtonnements et raccords successifs les propriétés et l'étendue. L'espèce a reconnu lentement et irrégulièrement la figure superficielle de la Terre, visité et représenté de plus en plus près ses parties, soupçonné et vérifié sa convexité fermée, trouvé et résumé les lois de son mouvement, découvert, évalué, exploité les ressources et les réserves utilisables de la mince couche dans laquelle toute vie est contenue. Accroissement de netteté et de précision, accroissement de puissance, voilà les faits essentiels de l'histoire des temps modernes. Et que je trouve essentiels parce qu'ils tendent à modifier l'homme même, et que la modification de la vie dans ses modes de conservation, de diffusion et de relation me paraît être le critérium de l'importance des faits à retenir et à méditer. Cette considération transforme les jugements sur l'histoire et sur la politique, y fait apparaître des disproportions et des lacunes, des présences et des absences arbitraires. À ce point de mes réflexions, il m'a paru que toute l'aventure de l'homme jusqu'à nous devait se diviser en deux phases bien différentes. La première, comparable à la période de ses tâtonnements désordonnés, de ses pointes et de ses reculs dans un milieu informe, de ses éblouissements et de ses impulsions dans l'illimité, qui est l'histoire de l'enfant dans le chaos de ses premières expériences. Mais un certain ordre s'installe, une ère nouvelle commence. Les actions en milieu fini, bien déterminées, nettement délimitées, richement et puissamment reliées, n'ont plus les mêmes caractères ni les mêmes conséquences qu'elles avaient dans un monde informe et indéfini. Observons toutefois que ces périodes ne peuvent se distinguer nettement dans les faits. Une fraction du genre humain vit déjà dans les conditions de la seconde, cependant que le reste se meut encore dans la première. Cette inégalité engendre une partie notable des complications actuelles. Considérant alors l'ensemble de mon époque et tenant compte des remarques précédentes, je m'efforçais de ne percevoir que les circonstances les plus simples et les plus générales, qui fussent en même temps des circonstances nouvelles. Je constatais presque aussitôt un événement considérable, un fait de première grandeur, que sa grandeur même, son évidence, sa nouveauté, ou plutôt sa singularité essentielle, avait rendu imperceptible à nos autres contemporains. Toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, Donc, l'ère de libre expansion est close. Plus de roc qui ne porte un drapeau. Plus de vide sur la carte. Plus de régions hors des douanes et hors des lois. Plus une tribu dont les affaires n'engendrent quelques dossiers et ne dépendent, par les maléfices de l'écriture, de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence. Le recensement général des ressources, la statistique de la main-d'œuvre, le développement des organes de relation se poursuivent. Quoi de plus remarquable et de plus important que cet inventaire, cette distribution et cet enchaînement des parties du globe? Leurs effets sont déjà immenses. Une solidarité toute nouvelle, excessive et instantanée, entre les régions et les événements, est la conséquence déjà très sensible de ce grand fait. Nous devons désormais rapporter tous les phénomènes politiques à cette condition universelle récente. Chacun d'eux représentant une obéissance ou une résistance aux effets de ce bornage définitif et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements humains. Les habitudes, les ambitions, les affections contractées au cours de l'histoire antérieure ne cessent point d'exister. Mais insensiblement transportées dans un milieu de structures très différentes, elles y perdent leur sens et deviennent cause d'efforts infructueux et d'erreurs. La reconnaissance totale du champ de la vie humaine étant accomplie, il arrive qu'à cette période de prospection succède une période de relation. Les parties d'un monde fini et connu se relient nécessairement entre elles de plus en plus. Or, toute politique jusqu'ici spéculait sur l'isolement des événements. L'histoire était faite d'événements qui pouvaient se localiser. Chaque perturbation produite en un point du globe se développait comme dans un milieu illimité. Ses effets étaient nuls à distance suffisamment grande. Tout se passait à Tokyo comme si Berlin fût à l'infini. Il était donc possible, il était même raisonnable, de prévoir, de calculer et d'entreprendre. Il y avait place dans le monde pour une ou plusieurs grandes politiques bien dessinées et bien suivies. Ce temps touche à sa fin. Toute action désormais fait retentir une quantité d'intérêts imprévus de toutes parts. Elle engendre un train d'événements immédiats, un désordre de résonance dans une enceinte fermée. Les effets des effets, qui étaient autrefois insensibles ou négligeables, relativement à la durée d'une vie humaine et à l'ère d'action d'un pouvoir humain, se font sentir presque instantanément à toute distance, reviennent aussitôt vers leur cause, ne s'amortissent que dans l'imprévu. L'attente du calculateur est toujours trompée, elle est en quelques mois ou en peu d'années. En quelques semaines, des circonstances très éloignées changent l'ami en ennemi, l'ennemi en allié, la victoire en défaite. Aucun raisonnement économique n'est possible. Les plus experts se trompent, le paradoxe règne. Il n'est de prudence, de sagesse ni de génie que cette complexité ne mette rapidement en défaut, car il n'est plus de durée, de continuité, ni de causalité reconnaissable dans cet univers de relations et de contacts multipliés. Prudence, sagesse, génie ne sont jamais identifiés que par une certaine suite d'heureux succès. Dès que l'accident et le désordre dominent, le jeu savant ou inspiré devient indiscernable d'un jeu de hasard. Les plus beaux dons s'y perdent. Par là, une nouvelle politique est à l'ancienne ce que les brefs calculs d'un agioteur, les mouvements nerveux de la spéculation dans l'enceinte du marché, ses oscillations brusques, ses retournements, ses profits et ses pertes instables sont à l'antique économie du père de famille, à l'attentive et lente agrégation des patrimoines. Les desseins longuement suivis, les profondes pensées d'un Machiavel ou d'un Richelieu auraient aujourd'hui la consistance et la valeur d'un tuyau de bourse. Ce monde limité, dont le nombre des connexions qui en rattachent les parties ne cesse de croître, est aussi un monde qui s'équipe de plus en plus. L'Europe a fondé la science qui a transformé la vie et multiplié la puissance de ceux qui la possédaient. Mais, par sa nature même, elle est essentiellement transmissible. Elle se résout, nécessairement, en méthodes et en recettes universelles. Les moyens qu'elle donne aux uns, tous les autres peuvent les acquérir. Ce n'est pas tout. Ces moyens accroissent la production, et non seulement en quantité. Aux objets traditionnels du commerce viennent s'adjoindre une foule d'objets nouveaux dont le désir et le besoin se créent par contagion ou imitation. On arrive bientôt à exiger de peuples moins avancés qu'ils acquièrent ce qu'il leur faut de connaissances pour devenir amateurs et acheteurs de ces nouveautés. Parmi elles, les armes les plus récentes. L'usage qu'on en fait contre eux les contraint d'ailleurs à s'en procurer. Ils n'y trouvent aucune peine. On se bat pour leur en fournir. On se dispute l'avantage de leur prêter l'argent dont ils les paieront. Ainsi, l'inégalité artificielle de force sur laquelle se fondait depuis 3 siècles la prédominance européenne tend à s'évanouir rapidement. L'inégalité fondée sur les caractères statistiques bruts tend à reparaître. L'Asie est environ 4 fois plus vaste que l'Europe. La superficie du continent américain est légèrement inférieure à celle de l'Asie. La population de la Chine est à soi seule au moins égale à celle de l'Europe, celle du Japon supérieure à celle de l'Allemagne. Or, la politique européenne locale, dominant et rendant absurde la politique européenne universalisée, a conduit les Européens concurrents à exporter les procédés et les engins qui faisaient de l'Europe la suzeraine du monde. Les Européens se sont disputés le profit de déniaiser, d'instruire et d'armer des peuples immenses, immobilisés dans leurs traditions et qui ne demandaient qu'à demeurer dans leur état. De même que la diffusion de la culture dans un peuple y rend peu à peu impossible la conservation des castes, et de même que les possibilités d'enrichissement rapide de toute personne par le commerce et l'industrie ont rendu illusoire et caduque toute hiérarchie sociale stable, ainsi en sera-t-il de l'inégalité fondée sur le pouvoir technique. Il n'y aura rien eu de plus sot dans toute l'histoire que la concurrence européenne en matière politique et économique, comparée, combinée et confrontée avec l'unité et l'alliance européenne en matière scientifique. Pendant que les efforts des meilleures têtes de l'Europe constituaient un capital immense de savoir utilisable, la tradition naïve de la politique historique de convoitise et d'arrière-pensée se poursuivait, et cet esprit de petits Européens livrait par une sorte de trahison à ceux-mêmes qu'on entendait dominer les méthodes et les instruments de puissance. La lutte pour des concessions ou pour des emprunts, pour introduire des machines ou des praticiens, pour créer des écoles ou des arsenaux, lutte qui n'est autre chose que le transport à longue distance des dissensions occidentales, entraîne fatalement le retour de l'Europe au rang secondaire que lui assignent ses dimensions, et duquel les travaux et les échanges internes de son esprit l'avaient tiré. L'Europe n'aura pas eu la politique de sa pensée. Il est inutile de se représenter des événements violents, de gigantesques guerres, des interventions à la Temujin, comme conséquence de cette conduite puérile et désordonnée. Il suffit d'imaginer le pire. Considérez un peu ce qu'il adviendra de l'Europe quand il existera par ses soins, en Asie, 2 douzaines de Creusot ou d'Essène, de Manchester ou de Roubaix. Quand l'acier, la soie, le papier, les produits chimiques, les étoffes, la céramique et le reste y seront produits en quantités écrasantes, à des prix invincibles, par une population qui est la plus sobre et la plus nombreuse du monde, favorisée dans son accroissement par l'introduction des pratiques de l'hygiène. Telles furent mes réflexions très simples devant mon atlas, quand les deux conflits dont j'ai parlé, et d'autre part, l'occasion de la petite étude que j'ai dû faire à cette époque sur le développement méthodique de l'Allemagne, m'eurent induit à ces questions. Les grandes choses survenues depuis lors ne m'ont pas contraint de modifier ces idées élémentaires, qui ne dépendaient que de constatations bien faciles et presque purement quantitatives. La crise de l'esprit, que j'ai écrite au lendemain de la paix, ne contient que le développement de ces pensées qui m'étaient venues plus de 20 ans auparavant. Le résultat immédiat de la Grande Guerre fut ce qu'il devait être. Il n'a fait qu'accuser et précipiter le mouvement de décadence de l'Europe. Toutes ses plus grandes nations affaiblies simultanément, les contradictions internes de leurs principes devenues éclatantes, le recours désespéré des deux parties aux non-européens, comparable au retour à l'étranger qui s'observe dans les guerres civiles, la destruction réciproque du prestige des nations occidentales par la lutte des propagandes, et je ne parle point de la diffusion accélérée des méthodes et des moyens militaires, ni de l'extermination des élites. Telles ont été les conséquences, quant à la condition de l'Europe dans le monde, de cette crise longuement préparée par une quantité d'illusions, et qui laisse après elle tant de problèmes, d'énigmes et de craintes, une situation plus incertaine, les esprits plus troublés, un esprit plus ténébreux qu'il ne l'était en 1913. Il existait alors en Europe un équilibre des forces. Mais la paix d'aujourd'hui ne fait songer qu'à une sorte d'équilibre de faiblesse nécessairement plus instable.